Alors, comme vous le savez, en plus des tables rondes, des cafés littéraires, des conférences débats, nous aimons bien, chaque année, recevoir nos invités étrangers et leur consacrer un 50 minutes, tout simplement, parce que le format de nos cafés littéraires et de nos tables rondes est parfois un peu court, en tout cas un peu court pour chaque auteur. Et on estime que quand on fait venir nos invités de Cuba, d'Argentine, d'Espagne ou des États-Unis, il est quand même bon de profiter d'eux et même d'abuser d'eux pour les pousser dans leur retranchement ou en tout cas leur poser les questions qui leur permettent à eux, parce que c'est ça notre but, de mieux faire comprendre un peu l'intérêt de leur romanesque. Et puis je sais que c'est aussi ça qui vous intéresse. Donc, chaque année, vous imaginez bien, quand on prépare le Festival Imaginal, et on travaille maintenant parfois 2 ans à l'avance, on est en train de réfléchir aux auteurs qu'on va inviter. Et parmi les auteurs qu'on souhaitait vraiment avoir dans le courant particulier de la fantaisie urbaine, qu'est-ce qu'on appelle en France la bitlit, une étiquette qui n'est pas une étiquette américaine mais française, toutes ces histoires de vampires, de loups-garous, de démons qui aujourd'hui marchent très très fort, à la fois chez le jeune public mais aussi chez des adultes qui aiment bien le côté enlevé de ces livres. On avait évidemment plusieurs noms sur notre liste, comme on a chaque année, mais Chloé Nel était en fort bonne place et on a été absolument ravis qu'elle accepte et qu'elle puisse se déplacer cette année aux Imaginales. Donc bienvenue Chloé, et j'espère en tout cas que vous trouvez dans ce festival un lieu de rencontre et de proximité avec vos lecteurs, parce que c'est comme ça que la ville d'Épinal l'a conçue. Et même quelques mots de français, alors là, on est conquis. Bien, on va commencer tout simplement par un petit extrait, histoire, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore les histoires de Chloé Nel, d'entrer dans le texte. Il siégeait autour d'une table de conférence. 8 hommes et femmes, tous âgés d'au moins 65 ans, excessivement fortunés. Et s'ils se trouvaient là, dans cette tour au cœur de Manhattan, c'était pour décider de mon sort. Je n'avais pas encore fêté mes 16 ans et avais terminé ma seconde le mois précédent. Mes parents, professeurs de philosophie, s'étaient vus offrir un congé sabbatique de 2 ans afin d'aller dans une université allemande à Munich. 2 ans à l'étranger. Pourquoi pas après tout, sauf qu'ils avaient décidé qu'il valait mieux que je reste aux États-Unis. Ils avaient choisi un samedi de juin pour m'annoncer la grande nouvelle. Je me préparais à aller chez Ashley, ma meilleure amie, quand mes parents avaient débarqué dans ma chambre et s'étaient assis sur mon lit. Lily avait lancé ma mère, il faut qu'on parle. Je ne surprendrai personne en précisant qu'il faut s'attendre à de sérieux problèmes après ce genre d'entrée en matière. J'avais tout d'abord pensé qu'il était arrivé quelque chose à Ashley, mais non, elle n'avait rien. C'était chez moi que le sort avait décidé de frapper. Mes parents m'expliquèrent que leur demande de congé sabbatique avait été acceptée et que partir travailler 2 ans en Allemagne était une formidable occasion pour eux. Là-dessus, ils avaient échangé l'un de ces longs regards appuyés qui ne présageaient généralement rien de bon. Ils avaient alors précisé qu'ils ne voulaient pas m'obliger à les suivre en Allemagne et qu'ils seraient débordés pendant leur séjour et qu'ils souhaitaient que j'aille dans un lycée américain afin de préserver mes chances d'intégrer l'une des meilleures universités. Ils avaient donc décidé que je resterais aux États-Unis pendant leur absence. J'étais partagé entre colère et excitation. J'étais dégoûté, bien sûr, parce qu'annoncer en allant me séparer, alors que je serais en train de franchir toute une série d'étapes capitales, passer les examens de fin de lycée, visiter les universités, me rendre au bal de promo, compléter enfin ma collection de vinyles des Smashing Pumpkins. Mais j'étais également excité à l'idée d'aller vivre avec Ashley et sa famille. Hélas, je n'avais vu juste que pour la première partie. Mes parents avaient jugé préférable que je termine le lycée à Chicago, dans un internat coincé entre gratte-ciel et béton, et non à Sagamore, ma ville natale, dans le nord de l'État de New York. Je pouvais tirer un trait sur mon quartier aux rues ombragées, sur mes amis et mes connaissances, sur mon petit univers à moi. Je leur avais opposé tous les arguments possibles et imaginables. On a bien deviné que ça ne marcherait pas avec les parents, souvent ça ne marche pas. Et donc, Chloé Nel, dans le Magie de Feu, le premier tome de Dark Elite, votre série, on sent bien, avec votre personnage, qu'on entre dans un univers de jeunes. Et d'ailleurs, votre roman est paru dans une collection jeunesse chez Castelmore. Pourquoi vous avez souhaité, à côté de votre grande série de de Beat Lead pour adultes, les Vampires de Chicago, on va en parler plus longuement tout à l'heure. Pourquoi vous avez souhaité écrire une série plus particulièrement destinée à vos jeunes lectrices et peut-être lecteurs aussi?
Well, I don't know that I necessarily set out to write a book about young people so much as I had this character in my mind. And I, growing up, read a lot of books about students who went to boarding school, and I really wanted to play with that experience. I mean, we've all read Harry Potter, but even as a younger child, I thought the idea of going to boarding school was so interesting that I wanted to kind of see what it would be like for myself, and I do that by kind of writing the stories and telling of someone else's experience. And because I prefer to write paranormal, I had to throw some magic in there.
En fait, au départ, je n'avais pas souhaité écrire spécifiquement pour les jeunes, mais c'est un personnage qui m'habite depuis très longtemps, qui m'habitait depuis très longtemps, ce personnage d'une jeune femme qui va en internat, qui part en internat. J'ai toujours été fascinée par cette notion de l'internat, ce qui se passe en internat chez des jeunes, chez des adolescents. Et c'était avant de lire Harry Potter, même depuis que je suis toute petite, j'étais très attirée par cette histoire d'internat. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire l'histoire de Lenny Parker.
Qu'est-ce qui vous passionne dans l'internat, le fait que vos jeunes personnages sont coupés de leurs parents, ou le fait que c'est un univers clos, peut-être les deux?
I think it's because it's an enclosed universe. That's a good way to put it. It's I think very similar to the idea of putting the vampires, which I'm sure we'll talk about later, in houses. It's the idea of having friends and enemies and, in some cases, lovers and teachers all together and really forming alliances based on the place that you live. And that kind of forming alliances is just such an interesting concept to me because humans do it everywhere, whether it's sports or politics. And really, there's no better way to do it than to have people living together because it's such a strong example of the way those alliances are formed.
En fait, oui, cet univers clos, c'est une très bonne expression, je trouve. Ça correspond tout à fait à ce que je souhaitais faire. Et on en parlera tout à l'heure, je pense, pour ce qui concerne les vampires. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai eu envie également de séparer les vampires en maisons. Parce que je pense que c'est dans cet univers où on retrouve un petit peu tout le monde. En fait, on a des amis qui vivent ensemble, les amoureux, les ennemis même, parfois, ou des professeurs. Donc dans ces maisons, on retrouve toutes ces personnes importantes dans notre vie, et toutes ces personnes partagent la vie les uns des autres et vivent sous le même toit. Et donc c'est une manière pour eux aussi de forger des alliances entre eux, les différentes maisons entre elles. Donc pour moi, ça me fascinait, c'est ce lieu de résidence où on retrouve tous ces personnages dans le même endroit. D'ailleurs, chez les humains, on le fait aussi, que ce soit dans le domaine des sports ou de la politique. Donc ça a motivé un petit peu aussi mon choix.
It also makes it easier when you're writing about teenagers going to fight essentially supernatural crime if their parents aren't there.
Et ça facilite un petit peu la chose aussi de voir des adolescents qui vont aller combattre des êtres surnaturels si leurs parents sont absents de l'histoire. Donc ça facilite un petit peu la chose.
Oui, je me posais aussi une autre question. Est-ce que quand on voit par exemple dans cet univers, je pense qu'on a tous dans la tête, même si c'est évidemment extrêmement différent, l'idée de Sunnydale, même si ce lycée, cet internat privé est très différent du lycée de la célèbre série qu'on ne présentera pas. Buffy contre les vampires, hein, tout le monde avait repéré. Il y a quand même aussi non seulement les monstres, les monstres mystérieux qu'on va affronter, que le personnage va affronter, mais il y a aussi les monstres qui sont les condisciples, tous ces odieuses filles ou garçons qu'on retrouve dans les établissements scolaires parce qu'on n'a pas choisi les gens avec qui on allait avoir cours. Et entre autres, le personnage des trois filles, là, absolument insupportable, petite bourgeoise riche, odieuse, mesquine, les pestes. Vous les avez connues dans votre ancien établissement scolaire, des filles comme ces pestes?
Yes, in a way. I went to a school. I was born in Arkansas, which is a southern state in the United States, and the school that I went to for junior high was fairly well, it was pretty segregated. And it's southern United States, and, you know, obviously there are just kind of a long racial history there. But it was also segregated in terms of wealth, and there was a very kind of a large group of girls who had quite a bit more money than everybody else. And just the interaction was very different. I didn't have the cruelty that you see in a lot of the other coming-of-age stories, for which I am very grateful. But it was obvious that there was a difference between me and them. And I guess that has kind of stuck with me as I've grown up.
Oui, j'ai connu des filles comme ça. En fait, moi, je suis originaire de l'Arkansas, qui est un des États du Sud des États-Unis. Et quand j'étais petite, j'étais jeune à l'école, il y avait encore des écoles où on pratiquait la ségrégation raciale. Donc, on parle du Sud des États-Unis. Et à mon école, en fait, il y avait des filles comme ça. Bon, je n'ai pas moi-même subi de trop grande cruauté comme dans l'histoire, mais il y avait des filles, effectivement, qui étaient des filles riches et qui avaient tout plein de choses que moi je n'avais pas, je n'étais pas dans la même situation. Et cette différence entre les filles mieux nanties et les filles plus pauvres était très visible, était très réelle.
Un petit extrait à nouveau donc de Magie de Feu, le tome 1 de Dark Elite. Pense à une scène. Scout, est-ce que ça va ? Pas de réponse. Arrivé à l'angle du couloir, je constatai qu'il aboutissait à une immense porte en métal et que Scout avait disparu. Merde, pardonnai-je. Jetant sans succès un coup d'œil aux alentours, je résolus de m'approcher pour examiner la porte. Elle était gigantesque. 2,50 m de haut, sommet arrondi, jointure et rivet en bronze. Au milieu, un volant surdimensionné. Et sous celui-ci, une barre de sécurité en acier trempée de 10 ou 12 cm d'épaisseur relevée. Voilà qui expliquait les frottements métalliques entendus plus tôt. Je n'étais pas sûr d'avoir envie de savoir qui cette porte empêchait de pénétrer dans Sainte Sophia, mais Scout était de l'autre côté. D'accord, on se connaissait depuis peu, et j'ignorais presque tout ou presque des activités de son fameux groupe de bénévoles. Mais elle semblait dans le pétrin, et le moins que je puisse faire, c'était venir en aide à ma nouvelle coloc. Qu'est-ce que je risquais après tout, un renvoi ? Sagamore, me voilà, murmurai-je en posant les mains sur le volant. Je suis beau tiré dessus, la porte ne bougea pas d'un pouce. Je tentai alors de tourner le volant, d'abord dans un sens, puis dans l'autre, mais cela n'eut pas le moindre effet, en tout cas pas de ce côté-ci du panneau. Fronçant les sourcils, j'étudiai la porte de haut en bas, en quête d'un mécanisme d'ouverture, trou de serrure, digicode, bref, tout dispositif susceptible de me permettre de franchir cet obstacle. Mais il n'y avait rien. Ma mission de sauvetage s'arrêtait là. Je réfléchis alors aux possibilités qui s'offraient à moi. Primo, remonter les escaliers, me coucher, et tout faire pour oublier que ma nouvelle meilleure amie se trouvait enfermée quelque part derrière une porte géante dans les sous-sols d'un ancien couvent du centre de Chicago. Segundo, attendre son retour et à ce moment-là lui fournir toute l'aide possible. Je me mordillais la lèvre inférieure quelques instants en observant le couloir par lequel j'étais venu, synonyme de retour en lieu sûr. Mais j'étais descendu jusqu'ici, et elle était là-dedans, fourrée dans un mystérieux pétrin. Je m'assis donc par terre, les genoux ramenés contre la poitrine, et j'attendis. Alors on voit bien des sous-sols, une porte mystérieuse, le danger rôde. Clonel, est-ce qu'il y a toujours des monstres dans les caves et dans les souterrains ?
When you're writing a paranormal story, it certainly makes things more interesting if there are. You know, as a larger metaphor, Lily finds both heroism and monsters as she explores Chicago's supernatural world. But certainly my job is to try to make my characters' lives as difficult as possible, but then give them as much strength as I can to pull them out of that. So I think in a sense, there have to be monsters behind the door because that makes the story much more interesting. Although she also finds really strong friendship ultimately because she decides to wait, and I think that's really important to her.
Ouais, je pense en fait en paranormal, il faut des monstres, hein, et c'est un peu un code. Il vaut mieux avoir des monstres. Et donc Lily va découvrir à la fois l'héroïsme et les monstres. Et pour moi, c'était important en tant qu'auteur que sa vie soit un petit peu difficile à Lily, parce que comme ça, je peux lui donner justement la force de faire face, le pouvoir, la capacité de faire face à des situations compliquées. Mais en même temps, elle va découvrir l'amitié et cette amitié sera très importante pour elle. Donc c'est pour cela qu'elle attend, en fait, qu'elle est assise, qu'elle est assise par terre et qu'elle attend sa copine, elle découvre l'amitié.
Troisième et dernier extrait, et après on va évidemment passer au vampire de Chicago. 10 ou 15 minutes plus tard, Scoot s'arrêta devant une porte en bois voûtée, beaucoup de portes, faite de poutrelles massives et barrée par 2 entretoises dorées. Un énorme 3 était élégamment gravé au-dessus du linteau. Sur la porte elle-même figurait le symbole que j'avais déjà vu dans le salle de la maquette, à savoir un cercle entourant un Y. Il devait donc s'agir de la fameuse enclave 3. Scoot éteignit sa lampe torche, puis me tendit la main. Je lui rendis celle qu'elle m'avait prêtée. Elle s'en saisit et rangea les 2 lampes dans son sac. « Ok, » dit-elle en me regardant dans les yeux, « un petit briefing ne te fera pas de mal. Les 7 autres adeptes, dit-il, devraient être là. » Pardon. Cathy et Smith sont nos membres de la section étudiante. Tu te rappelles ce que ça veut dire ?« Qu'ils sont à l'université, » répondis-je. « La section lycéenne, c'est pour nous autres. Tu m'as expliqué tout ça vendredi dernier. »« Tu as fait une virée avec les pestes depuis, » ronchonna-t-elle. « Ton QI a dû baisser. » Je lui lançai un regard noir. « Enfin bref, » fit-elle, sans tenir compte de ma mauvaise humeur. Cathy est une manipulatrice, au sens propre comme au figuré. Tu te souviens, en cours d'histoire, cette histoire de procès pour sorcellerie à Salem, à propos de gamins innocents qu'une sorcière aurait forcé à faire des choses horribles. Comme tous les lycéens de seconde ou presque, j'avais étudié les sorcières de Salem d'Arthur Miller l'année précédente, en cours de littérature aussi, hochai-je la tête. Ouais, ben, on les a très proprement forcées, tout ça n'a rien à mythe, Cathy n'est pas une méchante sorcière, mais elle a ce genre de talent. Carrément flippant, fis-je observer. Ouais, elle acquiesça, puis me tapota le bras. Ne fais pas trop de cauchemars cette nuit. Donc Cathy manipule, et Smith, oui, c'est son vrai prénom, l'évite. Il peut soulever des trucs lourds, les faire flotter dans les airs. Côté section lycéenne, t'as déjà vu Michael, Jason et moi, il y en a 3 autres. Jamie et Jill, des sœurs jumelles. Paul, c'est celui avec les cheveux bouclés. Tu as bien dit que t'étais évocatrice. Invocatrice, pas évocatrice. C'est quoi les différents pouvoirs de ces jeunes gens? Est-ce qu'en fait, c'est le pouvoir de leurs hormones, celle de leur adolescence? Est-ce que ces mystérieux pouvoirs, ce n'est pas le fait de devenir bientôt adulte?
The short answer might be yes to that. You know, there's a really strong tradition, especially in a lot of Japanese anime, that I've come to learn about fairly recently, in which the fate of the world rests on the shoulders of children and teenagers who have certain unique talents, the ability to command a large robot or certain magical powers. And I think the Dark Elite kind of ties into that idea, which is that children have a certain, or really anybody who has not yet become an adult, has a certain unique and different way of seeing the world. But that unique and different way of seeing the world tends to fade after time. So the power kind of tracks that ability, I think, in these series. It's not necessarily the hormones, but that as children and teenagers, before coming into adulthood, they're kind of gifted with a magical ability that matches, you know, their ability to believe in. Well, there's children here, so I don't want to say a certain phrase that in America there's a question about. Let's see, what's the most proper way to say that? They just have they're more willing to believe. They have less suspicion, I think, about the ability of the existence of supernatural creatures than adults do. And so the powers tend to kind of tap into that idea.
Oui, je pourrais simplement me contenter de dire oui, mais j'ai découvert assez récemment les animés japonais. Et il y a une tradition très importante là-bas chez eux, où dans ce genre de littérature, ce sont les enfants et les adolescents qui ont le pouvoir de sauver le monde. Ça fait partie de leur destin. Parce que ces enfants, ces adolescents ont des pouvoirs spéciaux, soit ils contrôlent par exemple des robots immenses, ou alors ils ont d'autres pouvoirs. Et c'est peut-être un petit peu ce que j'ai voulu faire avec cette série de Dark Elite, sans vraiment connaître cette tradition japonaise. C'est-à-dire que dans Dark Elite, les adolescents appréhendent un monde mystérieux et ce ne sont pas encore complètement des adultes. Et c'est justement parce que ce ne sont pas des adultes qu'ils ont cette capacité d'appréhender ce monde surnaturel et ces êtres surnaturels. Et aussi, ils peuvent appréhender ce monde parce qu'ils ne sont pas encore eux-mêmes adultes. Ils n'ont pas perdu leur capacité de croire en ces êtres surnaturels.
Voilà, donc vous avez cette série d'Arc Elite. Je crois qu'on vous a donné une assez bonne idée de ce que ça pouvait être, des mystères et des histoires que vous allez pouvoir trouver chez ces ados. En tout cas, c'est une des belles séries de Cloenel. Alors maintenant, on va évidemment plonger dans Les Vampires de Chicago, une série plus adulte peut-être, en tout cas, série aussi facile à lire que par des jeunes que par notre génération. On va donc commencer tout simplement par ce qu'on appelle en littérature l'incipit, c'est-à-dire les premières phrases du roman, ou plutôt une page et demie à peu près, pour nous situer tout de suite. On va faire connaissance avec Mérite, qu'on va suivre ensuite dans de nombreux romans. On en est à 7 publiés en France, je crois que le 8e est sorti, voilà, il sort, et j'en ai déjà lu 6, donc je suis à peu près informé de la série. C'est signe que la série m'a accroché. La transformation. Au début, je me demandais s'il ne s'agissait pas d'une punition karmique. J'avais considéré avec mépris la mode des vampires et comme frappé d'une sorte de châtiment cosmique, j'en étais devenu une. Une vampire, une prédatrice, une initiée dans l'une des plus anciennes des 12 maisons des États-Unis. Et je n'étais pas seulement l'une d'entre elles, je faisais partie des meilleures. Mais je brûle les étapes. Laissez-moi vous raconter comment je suis devenu ce que je suis. Cette histoire commence quelques semaines avant mon 28e anniversaire, la nuit où ma transformation s'est achevée. La nuit où je me suis réveillé à l'arrière d'une limousine, 3 jours après avoir été agressé, alors que je traversais le campus de l'université de Chicago. Je ne me rappelle pas tous les détails, mais je m'en souvenais suffisamment pour me réjouir d'être en vie. À vrai dire, je n'en revenais pas. À l'arrière de la limousine, je fermais les yeux et tentais d'analyser le souvenir de l'agression. J'avais entendu des bruits de pas étouffés par l'herbe couverte de rosée, puis il m'avait attrapé. J'avais hurlé et balancé des coups de pied, essayé de me débattre. Mais il m'avait poussé à terre. Il était fort, d'une force surnaturelle, et il me mordit au cou avec une férocité de prédateur qui me laissa peu de doute sur ce qu'il était, sur qui il était, un vampire. Mais même s'il me déchira peau et muscles, il ne but pas mon sang. Il n'en eut pas le temps. Il s'arrêta subitement et bondit pour s'enfuir en courant entre les bâtiments lisières du campus. Je portai la main au creux de mon cou et sentis quelque chose de chaud et poisseux. Ma vie était trouble, mais je distinguais assez clairement la tache couleur de vin sur mes doigts. Puis il y eut du mouvement autour de moi, 2 hommes, ceux qui avaient fait peur à mon agresseur. Le premier avait l'air inquiet. Il était rapide, vous allez devoir faire vite, sire. Le second répondit avec une confiance inébranlable, je vais m'en occuper. Il passa derrière moi, il me mit à genoux, puis me cala contre lui, un bras autour de ma taille pour me soutenir. Il sentait l'eau de Cologne, le savon et la propreté. J'essayais de bouger, de résister un peu, mais j'étais affaibli. « Ne bouge pas. Elle est jolie. » « Oui, » convint-il. Il têta la blessure de mon cou. J'eus un mouvement de recul et il me caressa les cheveux. « Ne bouge pas. » Passe la suite. Il va donc la transformer en vampire et ainsi lui sauver la vie. Voilà, on démarre très très fort dans ces vampires de Chicago par une scène d'agression. Et ce qui me paraît frappant, Cloenel, c'est les informations que vous nous donnez. D'emblée, on sait qu'il y a des prédateurs chez les vampires. D'emblée, on sait qu'il y a 12 maisons à Chicago. D'emblée, on sait qu'il y a visiblement, dans cette affaire, un vampire puissant. On n'a pas encore son prénom. Et alors qu'elle est en danger de mort, qu'elle pourrait mourir, elle se rappelle l'eau de Cologne, le savon et la propreté. Elle ne voit plus, elle est en état de choc. Et ces sensations, ce sont donc des sensations non pas de vue, mais d'odeur. Et le héros, celui qui va la sauver, ce chef vampire, on devine que c'est un homme important, plutôt un vampire important, le remarque, elle est jolie. Est-ce que d'emblée, vous ne posez pas ce qui va se passer tout au cours de tous vos épisodes? Vous nous donnez déjà l'eau à la bouche, Cloenel?
Thank you, or Tribune. S'il vous plaît. Ah, so I keep forgetting. Yes, absolutely. My goal as a writer is to, I mean, from a very meta perspective, is to keep you turning the pages. So hopefully what I can do is with every sentence that I set out, with every chapter ending, with every book ending, is make you want to turn the page and read the next thing. It's funny you mention that, because originally in Some Girls Bite, there was a very lengthy prologue of probably 10 or 15 pages that was another character in the book, Selena de Saulnier, having a press conference and outing vampires' existence to the world. But as you can imagine, there's a pretty big difference in the impact of the story from a press conference versus an actual attack that takes place and changes somebody into a vampire. So it was a very specific decision by me and my editor to really get to the heart of the story and focus on the changes that this woman was about to have to go through.
Ah oui, c'est vraiment ce qu'on avait l'intention de faire. Mon but, moi, personnellement, en écrivant ces livres, c'est de vous donner envie, à la fin de chaque phrase, de continuer à la phrase suivante, à la fin de chaque chapitre, de vous donner envie de lire le chapitre suivant, et à la fin de chaque livre, de vous donner envie de lire la suite. Donc ça, c'est le but que moi, je vise en tant qu'auteur. Dans la première version du premier tome de la série, l'idée était de démarrer par la conférence de presse de Selena qui annonce au reste du monde l'existence des vampires. Et puis, à bien réfléchir, l'éditeur et moi-même avons décidé de plutôt commencer par cette agression. Donc c'est un début qui est très très fort et que, en fait, notre avis, c'était qu'on entrait plus vite dans le vif du sujet. Donc au lieu de parler des vampires, on vivait une transformation en direct. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez cette scène dès le départ.
Excellent conseil, excellent éditeur, parce qu'on rentre dans le vif du sujet et on est tout de suite saisi, et ça donne une force ensuite à toute la série qui part très très fort.
I have a very, very good editor, and all the way from every book, all the Dark Elite, all the vampire books, it's been the same editor. So she knows the characters and is invested in them, but even in the beginning, kind of knew what we needed to do to really give impact to the story.
J'ai une éditrice extraordinaire qui est avec moi depuis le début, hein, donc que ce soit pour la série Dark Elite ou la série des vampires, c'est la même éditrice et ça marche super bien, on s'entend vraiment très bien.
Autre petit extrait, on avance, alors je ferai attention de ne pas vous faire de spoilers, je coupe au bon moment, je ne vous laisse pas normalement trop pour ceux et celles qui vont découvrir les livres. Seigneur Mallory, ce n'est vraiment pas le moment, répondis-je, même si elle n'avait pas tort. Ma vie amoureuse était un vrai désert. Mallory me tenait pour responsable de ma longue période de célibat. Elle affirmait que je ne me montrais pas assez. Qu'est-ce que c'était censé vouloir dire ? Je sortais, je traînais dans les cafés, j'allais au pot du vendredi soir du département de littérature et je me rendais presque tous les week-ends à des concerts. Chicago était un passage obligé pour les groupes indépendants en tournée. Mais je devais également me concentrer sur mon mémoire. J'aurais bien assez de temps pour les garçons ensuite. J'avais à présent l'éternité pour ça. Mallory passa un bras autour de mes épaules et me serra contre elle. « Écoute, tu es une vampire maintenant, une vampire, tu te rends compte ?» Elle apprécia du regard mon nouveau look Cadogan. « En tout cas, ils ont amélioré ton sens de la mode et tu auras bientôt le côté chic et gothique des morts-vivants. » Je haussai les sourcils. « Je ne plaisante pas, tu es grande, intelligente, jolie, tu as des jambes de 2 mètres de long. » Elle désigna. Elle désigna ces dernières d'un geste de tête, la mine un peu boudeuse. D'ailleurs, je te déteste un peu à cause de ça. Toi, tu as de jolis seins, avouai-je. Et comme chaque fois que nous avions cette conversation seins contre jambes, nous baissâmes les yeux sur nos poitrines respectives pour nous inspecter, nous comparer. Mais ça était correct, bien qu'un peu trop petit, les siens étaient parfaits. C'est vrai, dit-elle finalement, avant d'agiter la main d'un air dédaigneux, mais c'est hors sujet. Tu es superbe, et même si personnellement ça te contrerie, tu es la fille de Joshua Merritt. Tout le monde connaît son nom. Et malgré tout, tu n'as pas eu de rencard depuis quoi ? Un an ? 14 mois, mais on n'en était plus à ça près. Si tu sors en faisant ton numéro de jolie vampire toute neuve, il est possible que ça t'ouvre de nouvelles perspectives. Finalement, ça laisse du temps pour courir les garçons. Est-ce que c'est ça, finalement, qui console mérite d'être une vampire ? Est-ce que c'est ça qui, justement, le fait qu'elle a l'éternité pour rencontrer les garçons, est-ce que c'est ça qui motive ou du moins fait accepter un mérite d'être devenue une vampire malgré elle?
You know, nobody's ever asked me that before. That's a very good question. I think Merritt had a very specific plan for her life, for what her life is going to look like. Graduate school, she wants to finish her degree, she wants to get her PhD and then go teach. Very, very specific steps in a process. And the fact, I think, that she didn't have a boyfriend is really more a symptom of that, because clearly she has attributes that people find attractive. But she's so focused on the plan that she doesn't really spend enough time meeting people and you know, getting to know someone who she might want to date. So really, by becoming a vampire, her entire life, including her plan, is really a wrench is kind of thrown into those gears, as we would say in the United States. I don't know if there's an equivalent French saying for that, or French idiom. So that she, you know, kind of the boyfriend thing, she would just chalk up as one more problem on the list. How is she, you know, maybe she'll find a boyfriend, maybe it's easier now that she's a vampire, maybe it's not. But it's another thing than that becoming a vampire has changed, and she expects the change will be for the worse.
C'est une excellente question, c'est la première fois qu'on me la pose. Donc au départ, Merritt a un projet de vie très concret, elle va avoir son doctorat, elle étudie, elle veut donc obtenir son doctorat et devenir enseignante. Et donc elle a ce projet de vie très précis et rien ne va lui faire changer d'avis. Et si elle n'a pas de copain, c'est sans doute parce qu'elle a ce projet de vie qui est vraiment tellement précis qu'elle ne socialise pas beaucoup. Donc comme elle ne socialise pas beaucoup, elle ne peut pas rencontrer deux mecs, bien sûr. Mais quand elle devient un vampire, donc tout son projet est chamboulé complètement. Et là, elle commence à se demander, dans cette conversation avec Mallory, elle se demande, est-ce que le fait de devenir une vampire, ça va lui faciliter les choses? Est-ce qu'elle va rencontrer plus facilement des mecs? Elle ne le sait pas encore. Mais pour Merritt, ça ne peut qu'aggraver sa situation, le fait de devenir un vampire, au début. Hein.
Là aussi, quand on réfléchit un petit peu sur ce qu'est l'habitude, on va continuer au fur et à mesure à fantaisie urbaine, à y réfléchir. C'est des histoires de filles, c'est des histoires de garçons, c'est des histoires de conflits, c'est des histoires urbaines, et c'est aussi des interrogations sur la liberté et la contrainte. Est-ce que je me trompe, Chloénel?
Absolutely. I think that plays out here in that, you know, Merritt really didn't have a team to play on. And she, when she becomes Sentinel of Cadogan House, she's both irritated that someone is taking away her freedom, but also ultimately glad that she has a team and a family after not having either of those things for a really long time. But it's certainly, I think there are parallels in the larger world in terms of, you know, when you form an alliance with other people, whether that's a neighborhood or a sports team, by definition, you're also kind of setting yourself apart from everybody else, particularly if you're a group that's not, if you don't have full rights in a particular society, as vampires don't, how important it is to make friends and make allies and try to have someone to share those experiences with.
Oui, tout à fait. Au départ, Merritt est un être solitaire et elle souffre un petit peu de sa solitude. Et quand elle devient vampire et qu'elle intègre la maison Cadogan, eh bien, elle découvre ce que c'est que d'avoir une famille et de faire partie d'une équipe. Donc c'est nouveau pour elle. Et j'avais envie d'établir un parallèle avec la société des humains, parce qu'il y a toujours des distinctions entre groupes. Et dès qu'on forge une alliance, eh bien, on se sépare des autres, parce que en s'alliant à un groupe, eh bien, on est distinct d'un autre groupe. Donc il y a des différents groupes, que ce soit dépendant du quartier où on habite ou du sport que l'on pratique. Mais en même temps, le fait d'adhérer à un groupe, ça permet de se retrouver dans un membre d'un groupe et d'une famille. Donc j'ai eu envie de traiter de tous ces aspects-là dans ma série.
Autre petit extrait. Peut-être qu'au début, vous aurez un peu de mal à comprendre, mais je ne pouvais pas en dire trop, toujours le problème. Katia n'a pas parlé d'un vampire de la maison Cadogan, précisa mon grand-père. Il a dit quelqu'un dans la maison Cadogan. Nous savons qu'un médaillon a été subtilisé. Ils en gardent certainement en réserve au cas où un vampire passe d'une autre maison chez eux ou qu'un pendentif soit perdu. Et la recommandation approche. C'est à ce moment-là que les médaillons sont donnés aux nouveaux vampires. Ils sont dans la maison et peuvent donc être volés, fit remarquer Jeff. Katia se leva en s'étirant. Et son t-shirt se releva pour dévoiler des abdos en tablette de chocolat et un tatouage circulaire. Katcher était bourru, mais a croqué. Les vampires vont draguer en dehors de la maison, dit-il en baissant les bras. Et parfois, ils ramènent leurs conquêtes. Si les médaillons n'étaient pas convenablement cachés, n'importe quel visiteur aurait pu en dérober un. Et si Sullivan n'était pas aussi coincé, il envisagerait cette hypothèse. « Vous ne vous entendez pas, tous les deux » demandai-je. Ketcher gloussa avant de se rasseoir à son bureau. Sa chaise couina sous lui alors qu'il se mettait à l'aise. « On s'entend bien, Sullivan et moi, on se connaît par cœur. Comment ça ?» Il secoua la tête. « Nous n'avons pas le temps ce soir. Il te suffit de savoir que... » Il marqua une pause, l'air songeur avant de poursuivre. « Disons que Sullivan apprécie mes talents uniques. Qui sont ?» Ketcher eut un petit rire graveleux. « Jamais le premier soir, beauté. » Il fit courir sa main sur son crâne rasé et rouvrit le livre posé sur son bureau. Et même si Sullivan et moi sommes amis, il n'empêche qu'il est coincé. Et il n'est pas non plus du genre à admettre qu'il a tort. Cela étant l'affirmation la plus profondément pertinente que j'avais entendue ces derniers jours, j'éclatai d'un rire sincère. « Oh oui, » dis-je en me tapotant la poitrine, « ça va être droit au cœur de te l'entendre dire. Ethan pense que les vampires solitaires pourraient être impliqués, » déclarai-je, « mais comment aurait-il pu s'introduire dans la maison ? La sécurité avait l'air d'être très renforcée. »« Les solitaires sont une théorie possible, » dit grand-père, et nous l'avons transmise au bureau des investigations. « Alors, quel est votre rôle dans tout ça ?» demandai-je. « Vous transmettez les informations ?»« Nous ne sommes pas des enquêteurs, » confirma grand-père. « Ce bureau fonctionne davantage comme un corps diplomatique. Mais puisque notre vampire ne veut pas parler aux flics, nous avons accès à des informations que les flics n'ont pas. Le maire a demandé que nous les communiquions, et c'est ce que nous avons fait. » Voilà, dans le monde des vampires, maintenant que les humains savent qu'ils existent vraiment, il faut visiblement que les vampires et les êtres humains et que la ville dans laquelle ils habitent aient des contacts. Et donc, il y a une sorte de bureau intermédiaire, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, bien sûr que j'ai bien compris et bien lu, mais si notre public n'est pas au courant, on peut peut-être lui en dire un tout petit mot sans révéler trop de choses. Et le grand-père, c'est évidemment celui d'un de nos personnages importants, mais bon, voilà.
In the United States, there are offices in many cities and in some governments called the Ombudsman. And that individual or staff basically is supposed to help citizens solve problems, figure out which office or department to talk to, and basically serve as an intermediary, a helper. And it seemed to me if the city government of Chicago had known about supernaturals for a long time and wanted to keep everybody calm, they would have provided an ombudsman or mediator, in French, to assist them in solving problems and continue to keep supernatural problems as quiet as possible because the city was not ready to reveal those. Go ahead.
Aux États-Unis, il existe déjà, en fait, ce poste de médiateur. C'est un, pas pour les paranormaux, bien sûr, mais c'est un poste de médiateur qui existe vraiment au niveau municipal pour aider les citoyens à résoudre leurs problèmes, les diriger vers l'administration qui pourra les aider à résoudre leurs problèmes. Donc moi, je me suis dit que s'il existait des êtres paranormaux dans une ville comme Chicago, je pense qu'ils auraient justement mis sur pied un service équivalent de médiation entre les paranormaux et les humains. Donc c'était mon but parce que ça existe déjà, mais bien sûr pas pour les paranormaux.
So for example, if the river nymphs have a dispute of some kind, they don't have to call the police or 911 in the United States, and there doesn't have to be drama and sirens and media coverage. They can call the grandfather, Chuck, and ask Chuck for assistance, and he can very easily and quietly make things happen. So that's the role that he's been playing for several years, even though the other main characters didn't know it.
Alors, par exemple, si les nymphes de rivière ont des problèmes, elles ne sont pas obligées de composer les numéros d'urgence ou d'appeler les pompiers ou la police, parce qu'elles peuvent téléphoner directement à Chuck, qui s'occupera, le grand-père Chuck, qui s'occupera de régler leurs problèmes. Donc, les paranormaux connaissent l'existence de ce service de médiation et en font régulièrement usage.
D'ailleurs, vous savez que c'est à cause de vos romans que la ville d'Épinal a créé son propre bureau et qu'en fait, tous ces gens qu'on voit passer, qui se font passer pour des modérateurs, sont en fait les gens du bureau qui travaillent pour les créatures surnaturelles, mais ça reste évidemment complètement entre nous. Plus sérieusement, la question que je voulais poser à Chloé Nel, plus sérieusement, c'était justement sur le regard. Les romans sont évidemment distrayants. J'en ai fait la douloureuse expérience puisque j'y ai passé quelques nuits presque blanches. Mais au-delà de l'ambition de tout écrivain qui est discret, ses lecteurs et son public, je me demandais quand même, et je pense pas me tromper, s'il n'y a pas aussi un regard sur la société. Si cette réaction aux créatures surnaturelles qu'on va voir au fur et à mesure des romans, des différentes histoires, est-ce que quelque part c'est pas aussi le regard d'une société majoritaire sur ces minorités? Est-ce que c'est pas cette question-là que, relativement de façon discrète, vous n'êtes pas là pour nous faire du prêchi-prêcha, mais est-ce que c'est pas néanmoins cette question-là qu'abordent vos romans?
Absolument. It's, I think, a very common refrain in America, internationally. I fear that it is a human condition that people identify themselves as part of the group, as one group, and everybody else as part of some other group. It doesn't matter what the group is, but that seems to be an unfortunate human tendency. And in this case, that's played out with supernaturals, vampires, shapeshifters, river nymphs, any number of other creatures. But I don't think it would be difficult to draw that metaphor with any other, you know, political minority or racial minority or really any other group that has been on the outside and for which the majority is afraid to give power. So I agree. I don't think I set out to write necessarily a political novel, but unfortunately there's a lot of human history that gives an example for the way that vampires are treated in Chicago.
Je pense que c'est le cas partout dans le monde, c'est-à-dire que dès qu'on fait partie d'un groupe, on s'identifie en tant que membre du groupe, et les autres sont les autres, justement, ils font partie d'un autre groupe. Et donc, dans le cas de ma série, les groupes sont des groupes d'êtres surnaturels. On a les vampires, mais on a aussi les nymphes ou les métamorphes. Donc, ce sont des groupes distincts. Et au départ, je ne voulais pas en faire un roman politique, mais finalement, c'est un roman où, justement, ces groupes, que ce soit les nymphes, les vampires ou les autres êtres surnaturels, ce sont des minorités. Et donc on voit le conflit entre les minorités et la majorité, même si au départ je n'ai pas voulu écrire cela. Mais c'est vrai que ça peut s'appliquer à la société des humains en général, et on l'a vu dans l'histoire des êtres humains, que ce soit au niveau de la ségrégation raciale ou de toute autre forme de ségrégation. Donc il y a toujours eu ces conflits entre minorités et majorités, et la majorité souvent a peur de ces minorités qui sont différentes de la majorité.
Un petit extrait et après j'en arriverai à ma dernière question ou presque, parce que il faudra bientôt, mais je ne voyais pas l'heure passer, je surveillais ma montre. Le temps passe et on pourrait parler des vampires de Chicago pendant des heures. Je m'étais préparé au pire, mais cela ne suffit pas, loin de là. En dépit du grain grossier et de la piètre qualité des couleurs de l'image, impossible de se mépendre sur ce qu'elle montrait. Ils étaient morts. Seules quelques méthodes assuraient de supprimer un vampire de manière définitive. Pieux de tremble, exposition à la lumière du soleil, démembrement total, décapitation. Les deux dernières options expliquaient pourquoi le sabre était notre arme de prédilection. Notre lame nous permettait d'éliminer un ennemi mortel à coup sûr. Celui qui les avait tués, le monstre sans cœur qui avait commis ce meurtre, avait choisi la décapitation. Il gisait, je remplace les noms pour pas vous donner l'information. Il gisait côte à côte sur un plancher, baignant dans une mare de sang. Il se tenait la main, les doigts entrelacés dans un ultime geste d'amour. Un déni de la mort. Leurs bras étaient couverts de tatouages qui paraissaient n'en former qu'un, comme s'ils avaient été réalisés dans ce but par un seul et même artiste. Leurs cheveux blonds étaient englués de sang. Ils avaient eu la gorge tranchée. Leur tête sanctionnée reposait à quelques centimètres à peine de leur corps, semblant railler leur immortalité. Ils auraient survécu à bon nombre de lésions susceptibles de tuer la plupart des humains. Les vampires guérissaient rapidement et les plaies finissaient par se refermer. Mais la décapitation, bien évidemment, constituait une âme mortelle, cruelle. Je ne décelais aucun autre signe de traumatisme. Ils auraient pu être en train de dormir, abstraction faite de cette blessure insultante. J'avais déjà rencontré la mort et avais moi-même pris la vie, mais toujours dans le feu de la bataille, pour protéger quelqu'un ou quelque chose que j'aimais. Là, c'était différent. À moins que Noah ne possède de nouvelles informations au sujet d'X et Y, ce crime semblait avoir été commis de sang-froid et choqué par sa brutalité. Mon estomac se tordit, ma peau devint soudain moite et une goutte de sueur froide coula le long de mon dos. Ma tête tournée, je fus brusquement assailli par les souvenirs de la souffrance que m'avait causée la perte de quelques mois plus tôt, avant. Bon, Là, je passerai une petite ellipse. Je tendis le portable à mon grand-père, d'une main tremblante, qui portait les yeux sur Noah, Rose et Elena. Je suis vraiment désolé. Nous ne sommes pas des fauteurs de troubles, déclara Noah. Je ne sais pas qui a pu faire une chose pareille. Un monstre, assura mon grand-père, en passant le téléphone à Katcher et Jeff, avant de regarder tour à tour Noah, Rose et Elena. Je suis moi aussi sincèrement désolé. Je sais que ce n'est qu'une bien piètre consolation, mais je compatis à votre chagrin. Je me demandais combien de fois il a vu prononcer ces mots au cours des dizaines d'années qu'avait duré sa carrière de policier. C'est des vampires, mais finalement, un policier annonce toujours la mort de victimes à ses proches, et c'est toujours la même émotion.
You know, one of the strange phenomena about vampires, I think, who've existed in this series a very long time, is that they retain many of their human emotions. They, I think, become less involved in the human world over time, as we've seen Ethan Sullivan do, where he his emotions have muted slightly over time, and it's become hard for him to be as emotionally invested until he meets a woman whose name I won't mention, who brings him back. But certainly, you know, there's still something very human about vampires, which is unfortunate because the humans around them, particularly the Chicago Police Department, do not at first see them as human, which obviously is the source of a lot of their conflict.
Alors, dans mon monde, mes vampires éprouvent des émotions tout à fait humaines. Mais à la différence que ces émotions s'atténuent un petit peu à mesure qu'ils vieillissent. Donc, comme Ethan, par exemple, qui est très vieux, il éprouve peut-être moins d'émotions fortes jusqu'à ce qu'il rencontre une certaine personne dont on va taire le nom. Et je pense que, bon, pour la police, dans mes romans, c'était difficile de les voir comme des êtres humains, les vampires. Ils les voyaient comme étant différents. Ils ne voyaient pas que les vampires pouvaient éprouver les mêmes émotions que des humains.
Puisque les vampires ont fait leur coming out, hein, en quelque sorte, je renvoie, hein, pour finir, à une exergue, un exergue très court que vous avez choisi de mettre au début de votre premier roman. Je vais la lire et je remarque que vous avez choisi un écrivain français célèbre, André Gide. Mieux vaut être haï pour ce que l'on est qu'aimé pour ce que l'on n'est pas. Est-ce que finalement, ce n'est pas le cri du cœur de toutes les minorités?
Yes, many, probably most human beings at some time or another feel like they are forced to be someone else, or that they are not comfortable in their own skin, or, you know, that they want to be something that they can't be for fear that, you know, whether it's Lily, for example, wanting to fit in at school, Merritt wanting to fit in Cadogan House, Ethan wanting to be a vampire and a master and show his strength, but not being able to because it's Chicago and that's not allowed. I think it's a very common feeling among a lot of people, and I think Merritt is kind of an everyman in these books, because we get to see her really become part of a family by becoming something new and something that she would not have believed that she could be.
Je pense que la majorité des êtres humains, nous avons éprouvé une fois au moins dans notre vie ce sentiment de vouloir être autre, de vouloir être différent, et cette impression de ne pas être à la hauteur peut-être, ou d'être mal dans sa peau. Et c'est la même chose pour Dark Elite. Lily cherche à s'adapter à sa nouvelle institution scolaire, son nouvel établissement scolaire. Merritt veut se tailler sa place dans la maison Cadogan, et Ethan veut être un maître vampire. Il veut être quelqu'un de fort, mais il ne peut pas le montrer dans le Chicago des humains, puisque les vampires doivent vivre cachés. Et donc je pense que Merritt représente tout cela parce que, en essayant de se tailler sa place dans la maison Cadogan, elle doit se réinventer. Et je pense que nous tous avons connu cela, cette obligation de se réinventer. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer avec Merritt.
C'est une belle conclusion et je dirais qu'on n'a pas pu aborder évidemment tous les thèmes. J'aurais souhaité qu'on parle de l'humour important, entre autres dans Les Vampires de Chicago, mais aussi dans Dark Elite. C'est un des facteurs importants aussi du romanesque de Cloenel. En tout cas, deux belles séries, une série plus pour ados, une série vraiment adulte, mais que les ados et les jeunes pourront lire avec beaucoup de plaisir, c'est Vampires de Chicago. Faites attention, si vous ne connaissez pas encore... La Vampire de Chicago, vous achetez le premier, vous êtes addict. Tant pis pour vous, vous êtes prévenus. Merci Cloenel, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci.